Chapitre 11. Où le colonel Fougas apprend quelques nouvelles qui paraîtront anciennes à mes lecteurs. Parmi les personnes présentes à cette scène, il n'y en avait pas une seule qui eût vu des résurrections. Je vous laisse à penser la surprise et la joie qui éclatèrent dans le laboratoire. Une triple salve d'applaudissements mêlée de cris salua le triomphe du docteur Nibor. La foule entassée dans le salon, dans les couloirs, dans la cour et jusque dans la rue comprit à ce signal que le miracle était accompli. Rien ne put la retenir, elle enfonça les portes, surmonta les obstacles, culbuta tous les sages qui voulaient l'arrêter et vint enfin déborder dans le cabinet de physique. « Messieurs !» criait M. Nibor, « mais vous voulez donc le tuer ?» Mais on le laissait dire. La plus féroce de toutes les passions, la curiosité, poussait la foule en avant. Chacun voulait voir au risque d'écraser les autres. M. Nibor tomba. M. Renaud et son fils, en essayant de le secourir, furent abattus sur son corps. Mme Renaud fut renversée à son tour au genou du colonel, et se mit à crier du haut de sa tête. « Sacrebleu !» dit Fougas en se dressant comme par ressort. « Ces gredins-là vont nous étouffer si on les assomme !» Son attitude, l'éclat de ses yeux, et surtout le prestige du merveilleux, firent un vide autour de lui. On aurait dit que les murs s'étaient éloignés ou que les spectateurs étaient rentrés les uns dans les autres. « Hors d'ici, tous !» s'écria Fougas de sa plus belle voix de commandement. Un concert de cris, d'explications, de raisonnements s'élève autour de lui. Il croit entendre des menaces. Oh, il saisit la première chaise qui se trouve à sa portée, la brandit comme une arme. Il pousse, frappe, culbute les bourgeois, les soldats, les fonctionnaires, les savants, les amis, les curieux, le commissaire de police, et verse ce torrent humain dans la rue avec un fracas épouvantable. Cela fait, il referme la porte au verrou, revient au laboratoire, voit trois hommes debout auprès de Madame Renaud, et dit à la vieille dame en adoucissant le ton de sa voix, « Voyons, la mère, faut-il expédier ces trois-là comme les autres ?»«
Gardez-vous-en bien !» s'écria la bonne dame. « Mon mari et mon fils, monsieur, et monsieur le docteur Nibor qui vous a rendu la vie. »«
Oh, ce cas, honneur à eux, la mère !» Fougas n'a jamais forfait aux lois de la reconnaissance et de l'hospitalité. « Quant à vous, mon Esculape, touchez-la !»
Au même instant, il s'aperçut que 10 à 12 curieux s'étaient hissés du trottoir de la rue jusqu'aux fenêtres du laboratoire. Il marcha droit à eux et ouvrit avec une précipitation qui les fit sauter dans la foule.
« Peuple, dit-il, j'ai culbuté une centaine de pandours qui ne respectaient ni le sexe ni la faiblesse. Ceux qui ne seront pas contents, je m'appelle le colonel Fougas du 23e. Et vive l'empereur !»
Un mélange confus d'applaudissements, de cris, de rires et de gros mots répondit à cette allocution bizarre. Léon Renaud se hâta de sortir pour porter des excuses à tous ceux à qui l'on en devait. Il invita quelques amis à dîner le soir même avec le terrible colonel et surtout il n'oublia pas d'envoyer un express à Clémentine. Fougas, après avoir parlé au peuple, se retourna vers ses hôtes en se dandinant d'un air crâne, se mit à cheval sur la chaise qui lui avait déjà servi, releva les crocs de sa moustache et dit « Bon, ça, causons, j'ai donc été malade ?»«
Très malade. »«
C'est fabuleux. Je me sens tout dispo, j'ai faim, et même en attendant le dîner, je boirais bien un verre de votre schlick. »
Madame Renaud sortit, donna un ordre, et rentra aussitôt.
« Mais dites-moi donc où je suis !» reprit le colonel. À ces attributs du travail, je reconnais un disciple d'Uradi, peut-être l'ami de Monge et de Berthollet. Mais l'aimable cordialité empreinte sur vos visages me prouve que vous n'êtes pas des naturels de ce pays de choucroute. Oui, oh, j'en crois les battements de mon cœur. Amis, nous avons la même patrie. La sensibilité de votre accueil, à défaut d'autres indices, m'aurait averti que vous êtes français. Mais quel hasard vous ont amené si loin du sol natal. Enfant de mon pays, quelle tempête vous a jeté sur cette rive inhospitalière.
Mon cher colonel, répondit M. Dibord, si vous voulez être bien sage, vous ne ferez pas trop de questions par la voix. Laissez-nous le plaisir de vous instruire tout doucement et avec ordre, car vous avez beaucoup de choses à apprendre.
Le colonel rougit de colère et répondit vivement,
« Oh, oh, ce n'est toujours pas vous qui m'en remontrerez, mon petit monsieur !»
Une goutte de sang qui lui tomba sur la main détourna le cours de ses idées.
« Tiens, dit-il, est-ce que je saigne ?»«
Oh, cela ne sera rien, la circulation s'est rétablie et votre oreille cassée. »
Il porta vivement la main à son oreille et dit,
« C'est par Dieu vrai, mais du diable, si je me souviens de cet accident-là. »
« Je vais vous faire un petit pansement, et dans 2 jours, il n'y paraîtra plus. »«
Oh, ne vous donnez pas la peine, mon cher Hippocrate, une pincée de poudre, c'est souverain. »
M. Nibor se mit en devoir de le panser un peu moins militairement. Sur ces entrefaites, Léon rentra.
Ah ah, dit-il au docteur, vous réparez le mal que j'ai fait.
Tonnerre ! S'écria Fougas en s'échappant des mains de M. Nibor pour saisir Léon au collet. C'est toi, Clampin, qui m'as cassé l'oreille ?
Léon était très doux, mais la patience lui échappa. Il repoussa brusquement son homme.
Oui, monsieur. C'est moi qui vous ai cassé l'oreille en la tirant. Et si ce petit malheur ne m'était pas arrivé, il est certain que vous seriez aujourd'hui à 6 pieds sous terre. C'est moi qui vous ai sauvé la vie après vous avoir acheté de mon argent lorsque vous n'étiez pas coté plus de 25 louis. C'est moi qui ai passé 3 jours et demi à fourrer du charbon sous votre chaudière. C'est mon père qui vous a donné les vêtements que vous avez sur le corps. Vous êtes chez nous. Buvez le petit verre d'eau de vie que Goton vous apporte, mais pour Dieu, quittez l'habitude de m'appeler Clampin, d'appeler ma mère la mère, et de jeter nos amis dans la rue en les traitant de pandours.
Le colonel, tout ahuri, tendit la main à Léon, à M. Reynaud et au docteur, baisa galamment la main de Mme Renaud, avala d'un trait un verre à vin de Bordeaux rempli d'eau de vie jusqu'au bord, et dit d'une voix émue,
« Vertueux habitants, oubliez les écarts d'une âme vive mais généreuse. Domptez mes passions sera désormais ma loi. » Après avoir vaincu tous les peuples de l'univers, il est beau de se vaincre soi-même.
Cela dit, il livra son oreille à M. Nibor, qui acheva le pansement.
Mais, dit-il en recueillant ses souvenirs, on m'a donc pas fusillé ?
Non.
J'ai pas été gelé dans la tour ?
Non, pas tout à fait.
Pourquoi m'a-t-on ôté mon uniforme ? Ah, je devine. Je suis prisonnier.
Non, vous êtes libre.
Libre ? Vive l'empereur ! Mais alors, pas un moment à perdre. Combien de lieues d'ici à Danzig ?
C'est très loin.
Comment appelez-vous cette bicoque ?
Fontainebleau.
Fontainebleau en France ?
C'est les Marnes.
Nous allions vous présenter le sous-préfet lorsque vous l'avez jeté dans la rue.
Oh, je me fiche pas mal de tous les sous-préfets. J'ai une mission de l'empereur pour le général Rapp et il faut que je parte aujourd'hui même pour Danzig. Dieu sait si j'arriverai à temps.
Mon pauvre colonel, vous arriveriez trop tard. Danzig est rendu.
C'est impossible, depuis quand ?
Depuis tantôt 46 ans.
Tonnerre, oh, je n'entends pas qu'on se moque de moi.
Monsieur Liborg mit en main un calendrier et lui dit « Voyez-vous-même, nous sommes au 17 août 1859. Vous vous êtes endormi dans la tour de Liebenfeld le 11 novembre 1813. Il y a donc 46 ans moins 3 mois que le monde marche sans vous.
24 et 46, mais alors j'aurai 70 ans à votre compte. »
Votre vivacité montre bien que vous en avez toujours 24.
Il haussa les épaules, déchira le calendrier et dit en frappant du pied le parquet : Votre almanach est une blague.
Monsieur Renaud courut à sa bibliothèque, prit une demi-douzaine de volumes au hasard et lui fit lire au bas des titres les dates de 1826, 1833. 1847, 1858.
Pardonnez-moi, dit Fougas en plongeant sa tête dans ses mains. Ce qui m'arrive est si nouveau. Je ne crois pas qu'un humain se soit jamais vu à pareille épreuve. J'ai 70 ans.
La bonne Madame Renaud s'en alla prendre un miroir dans la salle de bain et le lui donna en disant. Regardez-vous. Il tenait la glace à deux mains et s'occupait silencieusement à refaire connaissance avec lui-même lorsqu'un orgue ambulant pénétra dans la cour et joua « Partant pour la Syrie ». Fougas lança le miroir contre terre en criant « Qu'est-ce que vous me contiez donc là ? J'entends la chanson de la reine Hortense ». Monsieur Renaud lui expliqua patiemment, tout en recueillant les débris du miroir, que la jolie chanson de la reine Hortense était devenue un air national et même officiel, que la musique des régiments avait substitué cette aimable mélodie à la farouche marseillaise et que nos soldats, chose étrange, ne s'en battaient pas plus mal. Mais déjà le colonel avait ouvert la fenêtre et criait au Savoyard
« Hé, hey, l'ami, un Napoléon pour toi, si tu me dis en quelle année je respire !»
L'artiste se mit à danser le plus légèrement qu'il put, en secouant son moulin à musique.
« Avance à l'ordre !» cria le colonel. « Et laisse en repos ta satanée machine !»«
Un petit chou, mon bon mouchu !»
Ce n'est pas un sou que je te donnerai, mais un Napoléon, si tu me dis en quelle année nous sommes.
C'est drôle.
Et si tu me le dis pas plus vite que ça, je te couperai les oreilles.
Oh, le Savoyard s'enfuit. Mais il revint tout de suite, comme s'il avait médité au trop la maxime qui ne risque rien à rien.
Mouchu, dit-il d'une voix patelineuse. « Nous sommes en 1859. »«
Bon !» cria Fougas. Il chercha de l'argent dans ses poches et n'y trouva rien. Léon vit son embarras et jeta 20 francs dans la cour. Avant de refermer la fenêtre, il désigna du doigt la façade d'un joli petit bâtiment neuf où le colonel put lire en toutes lettres « Audrey, architecte, MDCCLIX. Renseignement parfaitement clair et qui ne coûtait pas 20 francs. Fougas, un peu confus, serra la main de Léon et lui dit
« Ami, je n'oublierai plus que la confiance et le premier devoir de la reconnaissance envers la bienfaisance. Mais parlez-moi de la patrie. Je foule le sol sacré et où j'ai reçu l'être, et j'ignore les destinées de mon pays. La France est toujours la reine du monde, n'est-il pas vrai?
Oh, certainement, dit Léon.
Comment va l'empereur?
Bien.
Et l'impératrice?
Très bien.
Et le roi de Rome?
Le prince impérial, oh, c'est un très bel enfant.
Comment un bel enfant? Et vous avez le front de dire que nous sommes en 1859?
Monsieur Nibor prit la parole et expliqua en quelques mots que le souverain actuel de la France n'était pas Napoléon Ier, mais Napoléon III.
Mais alors, s'écria Fougas, mon empereur est mort?
Oui,
c'est impossible. Racontez-moi tout ce que vous voudrez, excepté ça. Mon empereur est immortel.
Monsieur Nibor et les Renault, qui n'étaient pourtant pas historiens de profession, furent obligés de lui faire en abrégé l'histoire de notre siècle. On alla chercher un gros livre écrit par Monsieur de Norvin et illustré de belles gravures par Raffet. Il n'accepta la vérité qu'en la touchant du doigt, et encore, s'écriait-il à chaque instant, «
Mais c'est impossible, c'est pas de l'histoire que vous me lisez, c'est un roman écrit pour faire pleurer les soldats !»
Il fallait en vérité que ce jeune homme eut l'âme forte et bien trempée, car il apprit en 40 minutes tous les malheurs que la fortune avait répartis sur 18 années, depuis la première abdication jusqu'à la mort du roi de Rome. Moins heureux que ses anciens compagnons d'armes, il n'eut pas un intervalle de repos entre ces chocs terribles et répétés qui frappaient tous son cœur au même endroit. On aurait pu craindre que le coup ne fît mal et que le pauvre Fougas ne mourût dans la première heure de sa vie. Mais ce diable d'homme pliait et rebondissait tour à tour comme un ressort. Il cria d'admiration en écoutant les beaux combats de la campagne de France. Il rugit de douleur en assistant aux adieux de Fontainebleau. Le retour de l'île d'Elbe illumina sa belle et noble figure. Son cœur courut à Waterloo avec la dernière année de l'Empire et s'y brisa. Puis il serrait les poings et disait entre ses dents « Ah, oh, si j'avais été là à la tête du 23e, Blücher et Wellington auraient bien vu !» L'invasion, le drapeau blanc, le martyr de Sainte-Hélène, la terreur blanche en Europe, le meurtre de Murat, ce dieu de la cavalerie, la mort de Ney, de Brune, de Mouton du Vernet, et de tant d'autres hommes de cœur qu'il avait connus, admirés et aimés, le jetèrent dans une série d'accès de rage. Mais rien ne l'abattit. En écoutant la mort de Napoléon, il jurait de manger le cœur de l'Angleterre. La lente agonie du pâle et charmant héritier de l'Empire lui inspirait des tentations des ventres et l'Autriche. Lorsque le drame fut fini et le rideau tombé sur Schönbrunn, il essuya ses larmes et dit « C'est bien, j'ai vécu en un instant toute la vie d'un homme. Maintenant, montrez-moi la carte de France. » Léon se mit à feuilleter un atlas, tandis que M. Renaud essayait de résumer au colonel l'histoire de la Restauration et de la monarchie de 1830. Mais Fougas avait l'esprit ailleurs. « Qu'est-ce que ça me fait, disait-il, que 200 bavards de députés mis roi à la place d'un autre? Des rois! Oh, j'en ai vu tant par la terre. Oh, si l'Empire avait duré 10 ans de plus, j'aurais pu me donner un roi pour brosseur. » Et lorsqu'on lui mit l'atlas sous les yeux, il s'écria d'abord avec un profond dédain : « Ça, la France ?
mais bientôt deux larmes de tendresse échappées de ses yeux arrosèrent l'Ardèche et la Gironde. Il baisa la carte et dit avec une émotion qui gagna presque tous les assistants: pardonne-moi, ma pauvre vieille, d'avoir insulté à ton malheur. Ces scélérats que nous avions rossés partout ont profité de mon sommeil pour renier tes frontières. Mais, petite ou grande, riche ou pauvre, tu es ma mère et je t'aime comme un bon fils. Voici la Corse, où naquit le géant de notre siècle. Voici Toulouse, où j'ai reçu le jour. Voilà Nancy, où j'ai senti battre mon cœur, où celle que j'appelais mon aiglée m'attend peut-être encore. France, tu as un temple dans mon âme. Ce bras t'appartient, tu me trouveras toujours prêt à verser mon sang jusqu'à la dernière goutte pour te défendre ou te venger. Chapitre 12. Le premier repas du convalescent. Le messager que Léon avait envoyé à Moret ne pouvait pas y arriver avant 7 heures. En supposant qu'il trouvât ces dames à table chez leurs hôtes, que la grande nouvelle abrégeât le dîner et qu'on mit aisément la main sur une voiture, Clémentine et sa tante seraient probablement à Fontainebleau entre 10 et 11 heures. Le fils de M. Renaud jouissait par avance du bonheur de sa fiancée. Quelle joie pour elle et pour lui lorsqu'il lui présenterait l'homme miraculeux qu'elle avait défendu contre les horreurs de la tombe et qu'il avait ressuscité à sa prière. En attendant, Gothon, heureuse et fière autant qu'elle avait été inquiète et scandalisée, mettait un couvert de 12 personnes. Son compagnon de chaîne, jeune Rustaud de 18 ans, éclos dans la commune des Sablons, l'assistait de ses deux bras et l'amusait de sa conversation. Pour lors, mademoiselle Gothon, disait-il en posant la pile d'assiettes creuses, c'est comme qui dirait un revenant qu'a sorti de sa boîte pour bousculer le commissaire et le sou parfait. Revenant, si on veut, Célestin. Sûr et certain qu'il revient de loin, le pauvre jeune homme, mais revenant n'est peut-être pas un mot à dire en parlant des maîtres. C'est-il donc vrai qu'il va être notre maître aussi, celui-là? Oh, il en arrive tous les jours de plus. J'aimerais bien qu'il arriverait des domestiques à de renfort. Taisez-vous, les arts de paresse. Quand les messieurs donnent pour boire en s'en allant, vous ne vous plaignez pas de n'être que deux à partager. Oh, oui, j'ai porté plus de 50 sioux d'eau pour le faire mijoter, votre colonel. Et je sais bien qu'il me donnera pas la pièce, ayant pas un liard dans ses poches. Faut croire que l'argent est pas en abondance dans le pays d'où ce qui revient. Mais on dit qu'il a des testaments à hériter du côté de Strasbourg. Un monsieur qui lui a fait fort de sa fortune. Ah, dites donc, mademoiselle Gothon. Vous qui lisez tous les dimanches dans un petit livre où ce qui pourrait être logé notre colonel du temps qu'il n'était pas de ce monde. Mais en purgatoire, donc. Alors pourquoi que vous lui demandez pas des nouvelles de ce fameux Baptiste, votre amoureux de 1837, qui sans laisser dévaler du haut d'un toit dont vous lui faites dire tant et tant de messes? Ils ont dû se rencontrer par là. C'est peut-être bien possible. À moins que le Baptiste en soit sorti depuis le temps que vous payez pour ça. Eh bien, j'irai ce soir dans la chambre du colonel, et comme il n'est pas fier, il me dira ce qu'il en sait. Mais allez, Célestin, vous n'en ferez donc jamais d'autre. Voilà encore que vous m'avez frotté mes couteaux d'entremets en argent sur la pierre à repasser. Les invités arrivaient au salon, où la famille Renaud s'était transportée avec M. Nibor et le colonel. On présenta successivement à Fougas le maire de la ville, le docteur Martout, maître Bonnivet, notaire, M. Audrey et 3 membres de la commission parisienne. Les 3 autres avaient été forcés de repartir avant le dîner. Les convives n'étaient pas des plus rassurés. leurs flancs meurtris par les premiers mouvements de Fougas leur permettaient de supposer qu'ils dîneraient peut-être avec un fou. Mais la curiosité fut plus forte que la peur. Le colonel les rassura bientôt par l'accueil le plus cordial. Il s'excusa de s'être conduit en homme qui revient de l'autre monde. Il causa beaucoup, un peu trop peut-être, mais on était si heureux de l'entendre et ses paroles empruntaient tant de prix à la singularité des événements qu'il obtint un succès sans mélange. On lui dit que le docteur Martout avait été un des principaux agents de sa résurrection avec une autre personne qu'on promit de lui présenter plus tard. Il remercia chaudement M. Martout et demanda quand il pourrait témoigner sa reconnaissance à l'autre personne. « J'espère, dit Léon, que vous la verrez ce soir. » On n'attendait plus que le colonel du 23e de ligne, M. Rollon. Il arriva non sans peine à travers les flots de peuple qui remplissaient la rue de la Faisanderie. C'était un homme de 40 ans, voix brève, figure ouverte. Ses cheveux grisonnaient vaguement, mais la moustache brune, épaisse et relevée, se portait bien. Il parlait peu, disait juste, savait beaucoup et ne se vantait pas. Somme toute, un beau type de colonel. Il vint droit à Fougas et lui tendit la main comme à une vieille connaissance. « Mon cher camarade, lui dit-il, j'ai pris grand intérêt à votre résurrection, tant en mon propre nom qu'au nom du régiment. Le 23e que j'ai l'honneur de commander, vous révérez hier comme un ancêtre. À dater de ce jour, il vous chérira comme un ami. » Pas la moindre allusion à la scène du matin où M. Rollon avait été foulé aussi bien que les autres. Fougas répondit convenablement, mais avec une nuance de froideur. « Mon cher camarade, dit-il, je vous remercie de vos bons sentiments. Il est singulier que le destin me mette en présence de mon successeur le jour même où je retrouve les yeux à la lumière, car enfin, je ne suis ni mort ni général, je n'ai pas permuté. » On ne m'a pas mis à la retraite, et pourtant, je vois un autre officier, plus digne sans doute, à la tête de mon beau 23e. Mais, si vous avez pour devise honneur et courage, comme j'en suis d'ailleurs persuadé, je n'ai pas le droit de me plaindre, et le régiment est en bonne main. Le dîner était servi. Madame Renaud prit le bras de Fougas. Elle le fit asseoir à sa droite et M. Nibor à sa gauche. Le colonel et le maire prirent leur place aux côtés de M. Renaud, les autres convives au hasard et sans étiquette. Fougas engloutit le potage à les entrées, reprenant de tous les plats et buvant en proportion. Un appétit de l'autre monde. « Estimable amphitryon, dit-il à M. Renaud, ne vous effrayez pas de me voir tomber sur les vivres. J'ai toujours mangé de même, excepté dans la retraite de Russie. Considérez d'ailleurs que je me suis couché hier sans souper à Liebenfeld. » Il pria M. Nibor de lui raconter par quelle série de circonstances il était venu de Liebenfeld à Fontainebleau. « Vous rappelez-vous, dit le docteur, un vieil Allemand qui vous a servi d'interprète devant le conseil de guerre ?»« Oh, parfaitement, oui, un brave homme qui avait une perruque violette. Oh, je m'en souviendrai toute ma vie, car il n'y a pas deux perruques de cette couleur-là. »« Eh bien, c'est l'homme à la perruque violette, autrement dit le célèbre docteur Meiser, qui vous a conservé la vie. » « Ah, où est-il? Je veux le voir, tomber dans ses bras, lui dire. » Il avait 68 ans passés lorsqu'il vous rendit ce petit service. Il serait donc aujourd'hui dans sa 115e année, s'il avait attendu vos remerciements.
Ainsi donc il n'est plus. La mort l'a dérobé à ma reconnaissance.
Oh, vous ne savez pas encore tout ce que vous lui devez. Il vous a légué en 1824 une fortune de 375 000 francs dont vous êtes le légitime propriétaire. Or, comme un capital placé à 5% se double en 14 ans, grâce aux intérêts composés, vous possédiez en 1838 une bagatelle de 750 000 francs, en 1852, 1,5 million. Enfin, s'il vous plaît de laisser vos fonds entre les mains de M. Nicolas Meiser de Dantzig, cet honnête homme vous devra 3 millions au commencement de 1866 ou dans 7 ans. Nous vous donnons ce soir une copie du testament de votre bienfaiteur. C'est une pièce très instructive que vous pourrez méditer en vous mettant au lit.
Je la lirai volontiers, dit le colonel Fougas, mais l'or s'embrestige à mes yeux. L'opulence engendre la mollesse. Moi, languir dans la lanche oisiveté de Sybaris, efféminer mes sens sur une couche de rose, oh jamais. L'odeur de la poudre m'est plus chère que tous les parfums de l'Arabie. La vie n'aurait pour moi ni charme ni saveur s'il me fallait renoncer au tumulte enivrant des armes. Et le jour où l'on dira que Fougas ne marche plus dans les rangs de l'armée, vous pourrez répondre hardiment, c'est que Fougas n'est plus. Il se tourna vers le nouveau colonel du 23e et lui dit, « Oh, vous, mon cher camarade, dites-leur que le faste insolent de la richesse est mille fois moins doux que l'austère simplicité du soldat, du colonel surtout. Les colonels sont les rois de l'armée. Un colonel est moins qu'un général, et pourtant il y a quelque chose de plus. Il vit plus avec le soldat. Il pénètre plus avant dans l'intimité de la troupe. Il est le père, le juge, l'ami de son régiment. L'avenir de chacun de ces hommes est dans ses mains. Le drapeau est déposé sous sa tente ou dans sa chambre. Le colonel et le drapeau ne sont pas deux, l'un est l'âme, l'autre est le corps. » Et il demanda à M. Rollon la permission d'aller revoir et embrasser le drapeau du 23e. « Vous le verrez demain matin, » répondit le nouveau colonel, « si vous me faites l'honneur de déjeuner chez moi avec quelques-uns de mes officiers. » Il accepta l'invitation avec enthousiasme et se jeta dans mille questions sur la solde, la masse, l'avancement, le cadre de réserve, l'uniforme, le grand et petit équipement, l'armement, la théorie. Il comprit sans difficulté les avantages du fusil à piston, mais on essaya vêtement de lui expliquer le canon rayé. L'artillerie n'était pas son fort. Il avouait pourtant que Napoléon avait dû plus d'une victoire à sa belle artillerie. Tandis que les innombrables rôtis de Madame Renaud se succédaient sur la table, Fougas demanda, mais sans perdre un coup de temps, quelles étaient les principales guerres de l'année ? Combien de nations la France avait sur les bras, et si l'on ne pensait pas enfin à recommencer la conquête du monde. Les renseignements qu'on lui donna, sans le satisfaire complètement, ne lui ôtèrent pas toute espérance. « Ben, j'ai bien fait d'arriver, dit-il, il y a de l'ouvrage. » Les guerres d'Afrique ne le séduisaient pas beaucoup, quoique le 23e eût conquis là-bas un bel accroissement de gloire. « Comme école, c'est bon, disait-il. Le soldat doit s'y former autrement que dans les jardins de Tivoli, derrière les jupons des nourrices. Mais pourquoi, diable, ne flanque-t-on pas 500 000 hommes sur le dos de l'Angleterre? L'Angleterre est l'âme de la coalition, je vous dis que ça. »
que de raisonnement il fallut pour lui faire comprendre la campagne de Crimée où les Anglais avaient combattu à nos côtés.
Je comprends, disait-il, qu'on tape sur les Russes. Ils m'ont fait manger mon meilleur cheval. Mais les Anglais sont mille fois pires. Si ce jeune homme, enfin l'empereur Napoléon III, ne le sait pas, je le lui dirai. Il n'y a pas de quartier possible après ce qu'ils viennent de faire à Sainte-Hélène. Si j'avais été en Crimée, commandant en chef, j'aurais commencé par rouler proprement les Russes, après quoi je me serais retourné contre les Anglais et je les aurais flanqués dans la mer, qui est leur élément.
On lui donna quelques détails sur la campagne d'Italie et il fut charmé d'apprendre que le 23e avait pris une redoute sous les yeux du maréchal, le duc de Solferino.
Oh, c'est la tradition du régiment, dit-il en pleurant dans sa serviette. Ce brigand de 23e n'en fera jamais d'autre. La déesse des victoires l'a touché de son aile.
Ce qui l'étonna beaucoup, par exemple, c'est qu'une guerre de cette importance se fût terminée en si peu de temps. Et il fallut lui apprendre que depuis quelques années, on avait trouvé le secret de transporter 100 000 hommes en 4 jours d'un bout à l'autre de l'Europe.
Bon, disait-il, j'admets la chose. Ce qui m'étonne, c'est que l'empereur ne l'ait pas inventé en 1810, car il avait le génie des transports, le génie des tendances, le génie des bureaux, le génie de tout. Mais enfin, les Autrichiens se sont défendus. Il n'est pas possible qu'en moins de 3 mois vous soyez arrivé à Vienne.
Oh, nous ne sommes pas allés si loin, en effet.
Vous n'avez pas poussé jusqu'à Vienne ?
Non.
Eh bien alors, où avez-vous donc signé la paix ?
À Villafranca.
À Villafranca ? C'est donc la capitale de l'Autriche ?
Oh non, c'est un village d'Italie.
Monsieur, je n'admets pas qu'on signe la paix ailleurs que dans les capitales. C'était notre principe, notre ABC, le paragraphe premier de la théorie. Oh, il paraît que le monde a bien changé depuis que je ne suis plus là. Mais patience.
Ici, la vérité m'oblige à dire que Fougas se grisa au dessert. Il avait bu et mangé comme un héros d'Homère et parlait plus copieusement que Cicéron dans ses bons jours. Les fumées du vin, de la viande et de l'éloquence lui montèrent au cerveau. Il devint familier, tutoya les uns, rudoya les autres et lâcha un torrent d'absurdité à faire tourner 40 moulins. Son ivresse n'avait rien de brutal et surtout rien d'ignoble. Ce n'était que le débordement d'un esprit jeune, aimant, vaniteux et déréglé. Il porta 5 ou 6 toasts à la gloire, à l'extension de nos frontières, à la destruction du dernier des Anglais, à Mademoiselle Mars, espoir de la scène française, à la sensibilité, lien fragile mais cher, qui unit l'amant à son objet, le père à son fils, et le colonel à son régiment. Son style, singulier mélange de familiarité et d'emphase, provoqua plus d'un sourire dans l'auditoire. Il s'en aperçut, et un reste de défiance s'éveilla au fond de son cœur. De temps à autre, il se demandait tout haut si ces gens-là n'abusaient point de sa naïveté.
Malheur, s'écriait-il, malheur à ceux qui voudraient me faire prendre des vessies pour des lanternes. La lanterne éclaterait comme une bombe et parterait le deuil aux environs.
Après de tels discours, il ne lui restait plus qu'à rouler sous la table, et ce dénouement était assez prévu. Mais le colonel appartenait à une génération d'hommes robustes, accoutumés à plus d'un genre d'excès,
aussi fort contre le plaisir que contre les dangers, les privations et les fatigues. Lorsque Madame Renaud remua sa chaise pour indiquer que le repas était fini, Fougas se leva sans effort, arrondit son bras avec grâce et conduisit sa voisine au salon. Sa démarche était un peu roide et tout d'une pièce, mais il allait droit devant lui et ne trébuchait point. Il prit deux tasses de café et passablement de liqueurs alcooliques, après quoi il se mit à causer le plus raisonnablement du monde. Vers 10 heures, M. Martout ayant exprimé le désir d'entendre son histoire, il se plaça lui-même sur la sellette, se recueillit un instant et demanda un verre d'eau sucrée. On s'assit en cercle autour de lui et il commença le discours suivant, dont le style un peu suranné se recommande à votre indulgence. Chapitre 13. Histoire du colonel Fougas racontée par lui-même. N'espérez pas que j'émaille mon récit de ces fleurs plus agréables que solides, dont l'imagination se pare quelquefois pour farder la vérité. Français et soldats, j'ignore doublement la feinte. C'est l'amitié qui m'interroge, c'est la franchise qui répondra. Je suis né de parents pauvres mais honnêtes, au seuil de cette année féconde et glorieuse qui éclaira le jeu de paume d'une aurore de liberté. Le Midi fut ma patrie, la langue aimée des troubadours fut celle que je bégayais au berceau. Ma naissance coûta le jour à ma mère. L'auteur des miens, modeste possesseur d'un champ, trempait son pain dans la sueur du travail. Mes premiers jeux ne furent pas ceux de l'opulence. Les cailloux bigarrés qu'on ramasse sur la rive et cet insecte bien connu que l'enfance fait voltiger libre et captif au bout d'un fil me tinrent lieu d'autres joujoux. Un vieux ministre des hôtels a franchi les liens ténébreux du fanatisme et réconcilié avec les institutions nouvelles de la France, fut mon Chiron et mon mentor. Il me nourrit de la forte moelle des lions de Rome et d'Athènes. Ses lèvres distillaient à mes oreilles le miel embaumé de la sagesse. Honneur à toi, docte et respectable vieillard, qui m'a donné les premières leçons de la science et les premiers exemples de la vertu. Mais déjà cette atmosphère de gloire que le génie d'un homme et la vaillance d'un peuple firent flotter sur la patrie enivrait tous mes sens et faisait palpiter ma jeune âme. La France, au lendemain du volcan de la guerre civile, avait réuni ses forces en faisceau pour les lancer contre l'Europe et le monde étonné, sinon soumis, cédait à l'essor du torrent déchaîné. Mais quel homme, quel Français, aurait pu voir avec indifférence cet écho de la victoire répercuté par des millions de cœurs? À peine au sortir de l'enfance, je sentis que l'honneur est plus précieux que la vie. La mélodie guerrière des tambours arrachait à mes yeux des larmes mâles et courageuses. « Et moi aussi, disais-je en suivant la musique des régiments dans les rues de Toulouse, je veux cueillir des lauriers, dussé-je les arroser de mon sang. » Le pâle olivier de la paix n'obtenait que me mépris. C'est en vain qu'on célébrait les triomphes pacifiques du barreau, les molles délices du commerce ou de la finance. À la toge de nos cicérons, à la cimare de nos magistrats, au siège curule de nos législateurs, à l'opulence de nos monts d'or, je préférais le glaive. On aurait dit que j'avais sucé le lait de Bellone. Vaincre ou mourir était déjà ma devise, et je n'avais pas 16 ans. Avec quel noble mépris j'entendais raconter l'histoire de l'opprobrité de la politique, de quel regard dédaigneux je bravais les turcarets de la finance, vautré sur les coussins d'un char magnifique et conduit par un automédon galonné vers le boudoir de quelque Aspasie. Mais si j'entendais redire les prouesses des chevaliers de la table ronde, ou célébrer en vers élégants la vaillance des croisés, si le hasard mettait sous ma main les hauts faits de nos modernes Roland, retracés dans un bulletin de l'armée par l'héritier de Charlemagne, une flamme avant-courrière du feu des combats s'allumait dans mes yeux juvéniles. Oh, c'était trop languir, et mon frein rongé par l'impatience allait peut-être se rompre quand la sagesse d'un père le délia. Pars, me disait-il, en essayant, mais en vain, de retenir mes larmes. C'est pas un tyran qui t'a engendré, et je n'empoisonnerai pas le jour que je t'ai donné moi-même. J'espérais que ta main resterait dans notre chaumière pour me fermer les yeux, mais lorsque le patriotisme a parlé, l'égoïsme doit se taire. Mes voeux te suivront désormais sur les champs où Mars moissonne les héros. Puisses-tu mériter la palme du courage et te montrer bon citoyen, comme tu as été bon fils. Il dit, et m'ouvrit ses bras. J'y tombai, et nous confondîmes nos pleurs, et je promis de revenir au foyer dès que l'étoile de l'honneur se suspendrait à ma poitrine. Mais hélas, l'infortuné ne devait plus me revoir. La parque, qui dorait déjà le fil de mes jours, trancha le sien sans pitié. La main d'un étranger lui ferma la paupière, tandis que je gagnais ma première épaulette à la bataille d'Iéna. Lieutenant à Hélo, capitaine à Wagram et décoré de la propre main de l'empereur sur le champ de bataille, chef de bataillon devant Almeida, lieutenant-colonel à Badajoz, colonel à la Moscova, j'ai savouré à plein bord la coupe de la victoire. J'ai bu aussi le calice de l'adversité. Les plaines glacées de la Russie m'ont vu seul avec un peloton de braves, dernier reste de mon régiment, dévorer la dépouille mortelle de celui qui m'avait porté tant de fois jusqu'au sein des bataillons ennemis. Tendre et fidèle compagnon de mes dangers, déféré par accident auprès de Smolensk, il dévoua ses mânes eux-mêmes au salut de son maître et fit un rempart de sa peau à mes pieds glacés et meurtris. Ma langue se refuse à retracer le récit de nos hasards dans cette funeste campagne. Je l'écrirai peut-être un jour avec une plume trempée dans les larmes. Les larmes, tribut de la faible humanité. Surpris par la saison des frimas dans une zone glacée, sans feu, sans pain, sans souliers, sans moyens de transport, privé des secours de l'art d'Esculape, harcelé par les Cosaques, dépouillé par les paysans, véritable vampire, nous voyions nos foudres muets, tombés au pouvoir de l'ennemi, vomir la mort contre nous-mêmes. Que vous dirais-je encore? Le passage de la Bérézina, l'encombrement de Vilna, tout le tremblement de tonnerre de nom d'un chien, mais je sens que la douleur m'égare, et que ma parole va s'empreindre de l'amertume de ses souvenirs. La nature et l'amour me réservaient de courtes mais précieuses consolations. Remis de mes fatigues, je coulais des jours heureux sur le sol de la patrie, dans les paisibles vallons de Nancy. Tandis que nos phalanges s'apprêtaient à de nouveaux combats,
tandis que je rassemblais autour de mon drapeau 3 000 jeunes, mais valeureux guerriers, tous résolus de frayer à leur neveu le chemin de l'honneur, un sentiment nouveau que j'ignorais encore se glissa furtivement dans mon âme. Orné de tous les dons de la nature, enrichi des fruits d'une excellente éducation, la jeune et intéressante Clémentine sortait à peine des ténèbres de l'enfance pour entrer dans les douces illusions de la jeunesse. 18 printemps formaient son âge. Les auteurs de ses jours offraient à quelques chefs de l'armée une hospitalité qui, pour n'être pas gratuite, n'en était pas moins cordiale. Voir leur fille l'aimer fut pour moi l'affaire d'un jour. Son cœur novice sourit à ma flamme, et aux premiers aveux qui me furent dictés par la passion, je vis son front se colorer d'une aimable pudeur. Nous échangeâmes nos serments par une belle soirée de juin, sous une tonnelle où son heureux père versait quelquefois aux officiers altérés la brune liqueur du Nord. Je jurai qu'elle serait ma femme, et elle promit de m'appartenir. Elle fit plus encore. Notre bonheur ignoré de tous, et le calme d'un ruisseau dont l'onde pure n'est point troublé par l'orage et qui, coulant doucement entre les rives fleuries, répand la fraîcheur dans le bocage qui protège son modeste cours. Un coup de foudre nous sépara l'un de l'autre, au moment où la foi et les autels s'apprêtaient à cimenter des nœuds si doux. Je partis, avant d'avoir pu donner mon nom à celle qui m'avait donné son cœur. Je promis de revenir, elle promit de m'attendre, et je m'échappai de ses bras, tout baigné de ses larmes, pour courir au laurier de Dresde et aussi près de Leipzig. Quelques lignes de sa main arrivèrent jusqu'à moi dans l'intervalle des deux batailles. « Tu seras père, » me dit-elle. « Le suis-je ? Dieu le sait. M'a-t-elle attendu ? Bon, je le crois. L'attente a dû lui paraître longue auprès du berceau de cet enfant qui a 46 ans aujourd'hui. » et qui pourrait à son tour être mon père. Pardonnez-moi de vous entretenir si longtemps de l'infortune. Je voulais passer rapidement sur cette lamentable histoire, mais le malheur de la vertu a quelque chose de doux qui tempère l'amertume de la douleur. Quelques jours après le désastre de Leipzig, le géant de notre siècle me fit appeler dans sa tente et me dit « Colonel, êtes-vous homme à traverser 4 armées ?»«
Oui, sire. »«
Seul et sans escorte ?»«
Oui, sire. »
« Il s'agit de porter une lettre à Danzig. »«
Oui, sire. » »«
Vous la remettrez au général Rapp en main propre. »«
Oui, sire. »
Il est probable que vous serez pris ou tué.
Oui, sire.
C'est pourquoi j'envoie 2 autres officiers avec des copies de la même dépêche. Vous êtes 3, les ennemis en tueront 2, le 3e arrivera et la France sera sauvée.
Oui, sire.
Celui qui reviendra sera général de brigade.
Oui, sire.
Tous les détails de cet entretien, toutes les paroles de l'empereur, toutes les réponses que j'eus l'honneur de lui adresser sont encore gravées dans ma mémoire. Nous partîmes séparément tous les 3. Hélas, aucun de nous ne parvint au but de son courage. Et j'ai appris aujourd'hui que la France n'avait pas été sauvée. Mais quand je vois des Pékins d'historiens raconter que l'empereur oublia d'envoyer des ordres au général Rapp, j'éprouve une funeste démangeaison de leur couper au moins la parole.
prisonnier des Russes dans un village allemand. J'eus la consolation d'y trouver un vieux savant qui me donna la preuve d'amitié la plus rare. Qui m'aurait dit, lorsque je cédai à l'engourdissement du froid dans la tour de Liebenfeld, que ce sommeil ne serait pas le dernier? Dieu m'est témoin qu'en m'adressant du fond du cœur un suprême adieu à Clémentine, je me flattais plus de la revoir jamais. Je te reverrai donc, ô douce et confiante Clémentine, toi la meilleure de toutes les épouses et probablement de toutes les mères. Que dis-je? Je la revois. Mes yeux ne me trompent pas. C'est bien elle. La voilà telle que je l'ai quittée. Clémentine, dans mes bras, sur mon cœur. Ah, ça, qu'est-ce que vous me chantiez donc, vous autres? Napoléon n'est pas mort et le monde n'a pas vieilli de 46 ans, puisque Clémentine est toujours la même. La fiancée de Léon, Renaud, venait d'entrer dans le salon et elle demeura pétrifiée en se voyant si bien accueillie par le colonel.